Histoire naturelle, suite 3. La sauterelle. Serait-ce le gendarme des insectes ? Tout le jour, elle saute et s'acharne aux trousses d'invisibles braconniers, qu'elle n'attrape jamais. Les plus hautes herbes ne l'arrêtent pas. Rien ne lui fait peur, car elle a des bottes de 7 lieues, un cou de taureau, le front génial, le ventre d'une carène, des ailes en celluloïde, des cornes diaboliques et un grand sabre au derrière. Comme on ne peut avoir les vertus d'un gendarme sans les vices, il faut bien le dire, la sauterelle chic. Si je mens, poursuis-la de tes doigts, joue avec elle à 4 coins, et quand tu l'auras saisie, entre 2 bonds, sur une feuille de luzerne, observe sa bouche. Par ses terribles mandibules, elle sécrète une mousse noire comme du jus de tabac. Mais déjà tu ne la tiens plus, sa rage de sauter la reprend. Le monstre vert t'échappe d'un brusque effort et, fragile, démontable, te laisse une petite cuisse dans la main. Le grillon. C'est l'heure où, las des raies, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du brin de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini ? Est-elle cassée ? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute. Point d'alarme dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la poule y grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune. Le cafard, noir et collé comme un trou de serrure. Le ver luisant. Ah, que se passe-t-il ? 9 heures du soir et il y a encore de la lumière chez lui. 2. Cette goutte de lune dans l'herbe. L'araignée. Une petite main noire et poilue crispée sur des cheveux. Toute la nuit, au nom de la lune, elle appose ses scellés. Le hanneton. Un bourgeon tardif s'ouvre et s'envole du marronnier. Plus lourd que l'air, à peine dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes en chocolat. Les fourmis. 1. Chacune d'elles ressemble au chiffre 3. Et il y en a, il y en a, il y en a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, et le perdreau. Une fourmi tombe dans une ornière où il a plu et elle va se noyer. Quand un perdreau, qui buvait, la pince du bec et la sauve. « Je vous la revaudrai, » dit la fourmi. « Nous ne sommes plus, » répond le perdreau sceptique, « au temps de la fontaine. Non que je doute de votre gratitude, mais comment piqueriez-vous au talon le chasseur prêt à me tuer ? Les chasseurs aujourd'hui ne marchent point pieds nus. » La fourmi ne perd pas sa peine à discuter, et elle se hâte de rejoindre ses sœurs, qui suivent toutes le même chemin, semblables à des perles noires qu'on enfile. Or, le chasseur n'est pas loin. Il se reposait sur le flanc à l'ombre d'un arbre. Il aperçoit le perdreau piétant et picotant à travers le chaume. Il se dresse et veut tirer. Mais il a des fourmis dans le bras droit. Il ne peut lever son arme. Le bras retombe inerte et le perdreau n'attend pas qu'il se dégourdisse. L'escargot. 1. Casanier dans la saison des rhumes, son cou de girafe rentré, l'escargot boue comme un nez plein. Il se promène dès les beaux jours, mais il ne sait marcher que sur la langue. 2. Mon petit camarade Abel jouait avec ses escargots. Il en élève une pleine boîte et il a soin, pour les reconnaître, de numéroter au crayon la coquille. S'il fait trop sec, les escargots dorment dans la boîte. Dès que la pluie menace, Abel les aligne dehors. Et si elles tardent à tomber, il les réveille en versant dessus un pot d'eau. « Et tous, sauf les mères qui couvent, dit-il au fond de la boîte, se promènent sous la garde d'un chien appelé Barbare, et qui est une lame de plomb qu'Abel pousse du doigt. Comme je causais avec lui du mal que donne leur dressage, je m'aperçus qu'il me faisait signe que non, même quand il me répondait oui. « Abel, lui dis-je, pourquoi ta tête remue-t-elle ainsi de droite et de gauche ?»«
C'est mon sucre, » dit Abel.
« Quel sucre ?»«
Tiens, là !»
Tandis qu'à quatre pattes, il ramenait le numéro 8 près de s'égarer, je vis au cou d'Abel, entre la peau et la chemise, un morceau de sucre qui pendait à un fil, comme une médaille.
« Maman me l'attache, » dit-il, « quand elle veut me punir. »«
Ça te gêne ? » ?»«
Ça gratte. » »«
Et ça cuit, hein, c'est tout rouge. » »«
Mais quand elle me pardonne, » dit Abel, « je le mange. »
La chenille. Elle sort d'une touffe d'herbe qu'il avait cachée pendant la chaleur. Elle traverse l'allée de sable à grandes ondulations. Elle se garde d'y faire halte et un moment, elle se croit perdue dans une trace de sabots du jardinier. Arrivée aux fraises, elle se repose, lève le nez de droite et de gauche pour flairer. Puis elle repart et sous les feuilles, sur les feuilles, elle sait maintenant où elle va. Quelle belle chenille, grasse, velue, fourrée, brune avec des points d'or, et ses yeux noirs. Guidée par l'odorat, elle se trémousse et se fronce comme un épais sourcil. Elle s'arrête au bas d'un rosier. De ses fines agrafes, elle tâte l'écorce rude, balance sa petite tête de chien nouveau-né et se décide à grimper. Et cette fois, vous diriez qu'elle avale péniblement chaque longueur de chemin par déglutition. Tout en haut du rosier s'épanouit une rose au teint de candide fillette. Ces parfums qu'elle prodigue la grisent. Elle ne se défie de personne. Elle laisse monter par sa tige la première chenille venue. Elle l'accueille comme un cadeau. Et, pressentant qu'il fera froid cette nuit, elle est bien aise de se mettre un boa autour du cou. La puce. Un grain de tabac à ressort. Le papillon. Ce billet doux, plié en deux, cherche une adresse de fleurs. La guêpe. Elle finira pourtant par s'abîmer la taille. La demoiselle. Elle soigne son ophtalmie. D'un bord à l'autre de la rivière, elle ne fait que tremper dans l'eau fraîche ses yeux gonflés.
et elle grésille comme si elle volait à l'électricité. L'écureuil. 1. Du panache, du panache. Oui, sans doute. Mais, mon petit ami, ce n'est pas là que ça se met. 2. Leste allumeur de l'automne, il passe et repasse sous les feuilles la petite torche de sa queue. La souris. Comme, à la clarté d'une lampe, je fais ma quotidienne page d'écriture, j'entends un léger bruit. Si je m'arrête, il cesse. Il recommence dès que je gratte le papier. C'est une souris qui s'éveille. Je devine ses va-et-vient au bord du trou obscur où notre servante met ses torchons et ses brosses. Elle saute par terre et trotte sur les carreaux de la cuisine. Elle passe près de la cheminée, sous l'évier, se perd dans la vaisselle, et par une série de reconnaissances qu'elle pousse de plus en plus loin, elle se rapproche de moi. Chaque fois que je pose mon porte-plume, ce silence l'inquiète. Chaque fois que je m'en sers, elle croit peut-être qu'il y a une autre souris quelque part, et elle se rassure. Puis je ne la vois plus. Elle est sous ma table, dans mes jambes. Elle circule d'un pied de chaise à l'autre. Elle frôle mes sabots, en mordille le bois, ou, hardiment, la voilà dessus. Et il ne faut pas que je bouge la jambe, que je respire trop fort. Elle filerait. Mais il faut que je continue d'écrire, et de peur qu'elle ne m'abandonne à mon ennui de solitaire, j'écris des signes, des riens, petitement, menu, comme elle grignote. Singes. Allez voir les singes. Maudits gamins, ils ont tout déchiré leur fond de culotte. Grimper, danser au soleil neuf, se fâcher, se gratter, éplucher des choses et boire avec une grâce primitive. Tandis que leurs yeux, troubles parfois, mais pas longtemps, s'échappent des lueurs vite éteintes. Allez voir les flamands qui marchent sur des pincettes, de peur de mouiller dans l'eau du bassin leurs jupons roses. Les cygnes et la vaniteuse plomberie de leur col. L'autruche, ses ailes de poussin et sa casquette de chef de gare responsable. Les cigognes qui haussent tout le temps les épaules. À la fin, ça ne signifie plus rien. Le marabout frileux dans sa pauvre jaquette. Les pingouins en Macfarlane. Le pélican qui tient son bec comme un sabre de bois. Et les perruches, dont les plus apprivoisés le sont moins que leur gardien lui-même, qui finit par nous prendre une pièce de 10 sous dans la main. Allez voir le yak lourd de pensées préhistoriques, la girafe qui nous montre, par-dessus les barreaux de la grille, sa tête au bout d'une pique. L'éléphant qui traîne ses chaussons devant sa porte, courbé, le nez bas. Il disparaît presque dans le sac d'une culotte trop remontée. Et derrière, un petit bout de corde pend. Allez donc voir le porc épic, garni de porte-plumes, bien gênant pour lui et son ami. Le zèbre, modèle à transparent de tous les autres zèbres. La panthère descendue au pied de son lit. L'ours qui nous amuse et ne s'amuse guère. Et le lion qui bâille à nous faire bâiller. Le cerf. J'entrais au bois par un bout de l'allée, comme il arrivait par l'autre bout. Je crus d'abord qu'une personne étrangère s'avançait avec une plante sur la tête. Puis je distinguai le petit arbre nain, aux branches écartées et sans feuilles. Enfin, le cerf apparut net et nous nous arrêtâmes tous deux. Je lui dis « Approche, ne crains rien. Si j'ai un fusil, c'est par contenance, pour imiter les hommes qui se prennent au sérieux. Je ne m'en sers jamais et je laisse ces cartouches dans leur tiroir. » Le cerf écoutait et flairait mes paroles. Dès que je me tus, il n'hésita point. Ses jambes remuèrent comme des tiges qu'un souffle d'air croise et décroise. Il s'enfuit. « Quel dommage !» lui criai-je. « Je rêvais déjà que nous faisions route ensemble. Moi, je t'offrais de ma main les herbes que tu aimes. Et toi, d'un pas de promenade, tu portais mon fusil couché sur ta ramure. » Le goujon. Il remonte le courant d'eau vive et suit le chemin que tracent les cailloux, car il n'aime ni la vase ni les herbes. Il aperçoit une bouteille couchée sur un lit de sable. Elle n'est pleine que d'eau. J'ai oublié à dessein d'y mettre une amorce. Le goujon tourne autour, cherche l'entrée et le voilà pris. Je ramène la bouteille et rejette le goujon. Plus haut, il entend du bruit. Loin de fuir, il s'approche par curiosité. C'est moi qui m'amuse, piétine dans l'eau et remue le fond avec une perche au bord d'un filet. Le goujon têtu veut passer par une maille. Il y reste. Je lève le filet et rejette le goujon. Plus bas, une brusque secousse tend ma ligne et le bouchon bicolore file entre deux os. Je tire et c'est encore lui. Je le décroche de l'hameçon et le rejette. Cette fois, je ne l'aurai plus. Il est là, immobile, à mes pieds, sous l'eau claire. Je distingue sa tête élargie, son gros œil stupide et sa paire de barbillons. Il bâille, la lèvre déchirée, et il respire fort après une telle émotion. Mais rien ne le corrige. Je laisse de nouveau tremper ma ligne avec le même verre. Et aussitôt le goujon mort. Lequel de nous deux se lassera le premier? Décidément, ils ne veulent pas mordre. Ils ne savent donc pas que c'est aujourd'hui l'ouverture de la pêche. Le brochet. Immobile à l'ombre d'un saule, c'est le poignard dissimulé au flanc du vieux bandit. La baleine. Elle a bien dans la bouche de quoi se faire un corset, mais avec ce tour de taille. Poisson. Monsieur Vernet n'était pas un pêcheur à embarras, un pêcheur savant, vaniteux, bavard, insupportable. Il n'avait point de costume spécial, d'engin coûteux et inutile, et la veille de l'ouverture ne lui donnait pas la fièvre. Une ligne lui suffisait, de fil cordonné. Un bouchon discrètement peint, des vers de son jardin, comme amorce, et un sac de toile où il rapportait le poisson. Pourtant, M. Vernet aimait la pêche. Passionnément, ce serait trop dire. Il l'aimait bien. Il n'aimait plus qu'elle, après avoir renoncé successivement, pour des raisons diverses, à ses exercices préférés. La pêche ouverte, il pêchait presque tous les jours, le matin ou le soir, le plus souvent au même endroit. D'autres pêcheurs accordent de l'importance au vent qu'il fait, au soleil qui chauffe, aux nuances de l'eau. Monsieur Vernet, aucune. Sa perche de ligne de noisetier à la main, il partait à son gré, longeait l'Yonne, s'arrêtait aussitôt qu'il ne voulait pas aller plus loin. Déroulait, posait la ligne et passait d'agréables moments jusqu'à l'heure de revenir à la maison pour déjeuner ou dîner. Monsieur Vernet n'était pas assez fantaisiste, sous prétexte de pêche, pour manger mal à l'aise, dehors. C'est ainsi qu'il se trouva, dimanche dernier, le matin, d'assez bonne heure, s'étant pressé un peu ce premier jour, assis sur l'herbe et non sur un pliant, au bord de la rivière. Tout de suite, il s'amusa autant qu'il pouvait. Cette matinée lui semblait délicieuse, non pas seulement parce qu'il pêchait, mais parce qu'il respirait un air léger, parce qu'il voyait miroiter l'Yonne, suivait de l'œil une course sur l'eau de moustiques à longues pattes et écoutait des grillons chanter derrière lui. Certes, la pêche l'intéressait aussi, beaucoup. Bientôt, il prit un poisson. Ce n'était pas une aventure extraordinaire pour M. Vernet, il en avait pris d'autres. Il ne s'acharnait pas après les poissons, il était homme à s'en passer. Mais chaque fois qu'un poisson mordait trop, il fallait bien le tirer de l'eau. Et M. Vernet le tirait toujours avec un peu d'émotion. On la devinait au tremblement de ses doigts qui changeaient l'amorce. M. Vernet, avant d'ouvrir son sac, posa le goujon dans l'herbe. Il ne faut pas dire « Quoi ? Ce n'était qu'un goujon !» Il y a de gros goujons qui agitent si violemment la ligne que le cœur du pêcheur bat comme à un drame. M. Vernet, calmé, rejeta sa ligne à l'eau et au lieu de mettre le goujon dans le sac, sans savoir pourquoi, il ne sut jamais le dire, il regarda le goujon. Pour la première fois, il regarda un poisson qu'il venait de prendre. D'habitude, il se dépêchait de lancer sa ligne à d'autres poissons qui n'attendaient qu'elle. Aujourd'hui, il regardait le goujon avec curiosité, puis avec étonnement, puis avec une espèce d'inquiétude. Le goujon, après quelques soubresauts qui le fatiguèrent vite, s'immobilisa sur le flanc et ne donna plus signe de vie que par les efforts visibles qu'il faisait pour respirer. Ses nageoires collées au dos, il ouvrait et fermait sa bouche, ornée à la lèvre inférieure de deux barbillons comme de petites moustaches molles. Et lentement, la respiration devenait plus pénible, au point que les mâchoires hésitaient même à se rejoindre. « C'est drôle, » dit M. Vernet, « je m'aperçois qu'il étouffe. » Et il ajouta « qu'il souffre !» C'était une remarque nouvelle, aussi nette qu'inattendue. « Oui, les poissons souffrent quand ils meurent. On ne le croit pas d'abord, parce qu'ils ne le disent pas. Ils n'expriment rien. Ils sont muets, c'est le cas de le dire. Et par ces détentes d'agonie, ce goujon semblait jouer encore. Pour voir les poissons mourir, il faut, par hasard, les regarder attentivement. Comme M. Vernet. Tant qu'on n'y pense pas, peu importe, mais dès qu'on y pense... « Je me connais, » se dit M. Vernet, « je suis fichu. Je m'interroge et je sens que j'irai jusqu'au bout de mon questionnaire. C'est inutile de résister à la tentation d'être logique. La peur du ridicule ne m'arrêtera pas. Après la chasse, la pêche. Un jour quelconque, à la chasse, après un de mes crimes, je me suis dit « De quel droit fais-tu ça ?» La réponse était toute prête. On s'aperçoit vite qu'il est répugnant de casser l'aile d'une perdrix, les pattes d'un lièvre. Le soir, j'ai pendu mon fusil qui ne tuera plus. L'odieux de la pêche, moins sanglante, vient seulement de me frapper. » À ces mots, M. Vernet vit le bouchon de sa ligne qui se promenait sur l'eau comme animé, comme par défi. Il tira machinalement une fois de plus. C'était une perche, hérissée, épineuse, qui, goulue comme toutes ses pareilles, avait avalé l'hameçon jusqu'au ventre. Il fallut l'extraire, arracher de la chair, déchirer des ouïes de dentelle rouge, se poisser les mains de sang. Oh, il saignait celui-là, il s'exprimait. M. Vernet roula sa ligne, cacha au pied d'un saule les deux poissons qu'une loutre y trouverait peut-être, et s'en alla. Il semblait plutôt gai et méditait en marche. « Je serais sans excuse, » se disait-il. « Chasseur, même si je pouvais m'offrir avec mon argent d'autres viandes, je mangeais du moins le gibier, je me nourrissais. Je ne donnais pas la mort uniquement par plaisir. Mais Madame Vernet rit bien quand je lui apporte mes quelques poissons raides et secs et que je n'ose même pas, honte, la prier de les faire cuire. C'est le chat qui se régale. Qu'il aille les pêcher lui-même s'il veut. Moi, je casse ma ligne. » Cependant, comme il tenait encore les morceaux brisés, M. Vernet murmura, non sans tristesse, « Est-ce enfin devenir sage ? Est-ce perdre déjà le goût de vivre ?» Au jardin. La bêche. Fac et spera. La pioche. Moi aussi. Les fleurs. Fera-t-il soleil aujourd'hui ? Le tournesol. Oui, si je veux. L'arrosoir. Pardon, si je veux, il pleuvra. J'ôte ma pomme à torrent. Le rosier. Oh, quel vent ! Le tuteur. Je suis là. La framboise. Pourquoi les roses ont-elles des épines ? Ça ne se mange pas, une rose. La carpe du vivier. Bien dit, c'est parce qu'on me mange que je pique, moi, avec mes arêtes. Le chardon. Oui, mais trop tard. La rose. Me trouves-tu belle ? Le frelon. Il faudrait voir les dessous. La rose. Entre. L'abeille. Du courage, tout le monde me dit que je travaille bien. J'espère, à la fin du mois, passer chef de rayon. Les violettes. Nous sommes toutes officiers d'académie. Les violettes blanches. Raison de plus pour être modeste, mes sœurs. Le poireau. Sans doute, est-ce que je me vante ? L'épinard. C'est moi qui suis l'oseille. L'oseille. Mais non, c'est moi. L'échalote. Oh, que ça sent mauvais. L'ail. Je parie que c'est encore l'œillet. L'asperge. Mon petit doigt me dit tout. La pomme de terre. Je crois que je viens de faire mes petits. Le pommier au poirier d'en face. C'est ta poire, ta poire, ta poire. C'est ta poire que je voudrais produire. Les coquelicots, ils éclatent dans le blé comme une armée de petits soldats, mais d'un bien plus beau rouge. Ils sont inoffensifs. Leur épée, c'est un épi. C'est le vent qui les fait courir. Et chaque coquelicot s'attarde, quand il veut, au bord du sillon. Avec le bleuet, ça pèse. La vigne. Tous ces cèpes, les chaladroits, sont au port d'armes. Qu'attendent-ils ? Le raisin ne sortira pas encore cette année et les feuilles de vigne ne servent plus qu'au statut.